Bien, qui veut lire éventuellement de 16 à 25, on termine la péricope.
Moi, je veux bien.
Ok.
Paul alors se leva, fit signe de la main et dit: Israélites, et vous qui craignez Dieu, écoutez-moi. Le Dieu de notre peuple d'Israël a choisi nos pères. Il a fait grandir le peuple pendant son séjour au pays d'Égypte. Puis, à la force du bras, il les en a fait sortir. Pendant environ 40 ans, il les a nourris au désert. Ensuite, après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il a distribué leur territoire en héritage. Tout cela a duré 450 ans environ. Après quoi, il leur a donné des juges jusqu'au prophète Samuel. Ils ont alors réclamé un roi, et Dieu leur a donné Saül, fils de Kis, issu de la tribu de Benjamin, qui régna 40 ans. Après l'avoir déposé, Dieu leur a suscité David comme roi. C'est à lui qu'il a rendu ce témoignage. « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. C'est de sa descendance que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir Jésus, le sauveur d'Israël. » Précédant sa venue, Jean avait déjà proclamé un baptême de conversion pour tout le peuple d'Israël. Et, alors qu'il terminait sa course, il disait: « Qui supposez-vous que je suis ? Ce n'est pas moi. Mais voici que vient après moi quelqu'un dont je ne suis pas digne de délier les sandales. »
Ok, ok. Très bien. Alors, dans le questionnaire, je pense que c'était surtout les questions 6 et 7 qui nous incombent aujourd'hui, plus évidemment les applications pratiques si on en a. Pour ce qui est du verset 16, le début, donc l'avant-discours, si je puis dire, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, là, la manière de procéder ? Paul se lève, fait un signe de la main.
C'est quoi, c'est comme ça ou... enfin...
Ave, c'est ça.
Ave, c'est ça.
C'est pas élite, là.
Non, pas.
En fait, pourquoi cette posture ? Pour obtenir le silence, tout simplement.
Ah, oui, voilà. Ouais.
Donc, en fait, il y avait, à l'époque, culturellement, deux positions possibles. Celui qui entre dans un enseignement. Cela, ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation, d'accord ? Donc, si tu es enseignant à la synagogue, tu restes assis. C'est les autres qui, d'office, t'écoutent, font silence, hein, tu parles pendant une heure, et voilà, tu poses des questions à ton groupe, voilà, c'est comme ça que ça marchait. Mais ici, il s'agit d'un service du Shabbat, et on lui demande de faire une sorte de commentaire, une sorte d'exhortation à partir de ce qui a été lu, comme on l'a vu la fois dernière. Et dans ces cas-là, on se levait, comme pour désigner, attirer l'attention, d'une part, mais désigner aussi peut-être un côté plus solennel et peut-être aussi un côté plus pédagogique, d'une certaine manière, pour vraiment tenir l'attention du groupe. Et le fait de lever la main, on l'avait déjà vu dans les actes au tout début, des discours de Pierre. Pierre agit souvent comme ça aussi. Donc il y a toujours, enfin il faut bien le dire, dans les synagogues, il y a toujours du brouhaha. Parce que dans une synagogue, ce n'est pas le silence. Bon, je le sais pour y avoir été. On peut papoter voilà, pendant qu'il y a une lecture publique ou pendant qu'il y a un chant. Il y a des gens qui papotent, il y a des gens qui bougent. Donc si on voulait vraiment attirer l'attention du public, il faut signaler qu'on va parler, et voilà, puis les gens essaient de faire un peu moins de bruit, et ça marche pas mal, quoi. On avait déjà vu, je pense, l'explication des termes exhortation la fois passée, donc je ne vais pas y revenir, mais disons une forme de prédication encourageante, hein, voilà, sur base de ce qu'on a entendu dans les deux lectures du jour. Alors, dans cette première partie de discours, à partir de 16b, On l'avait, je pense, déjà divisé en trois la fois passée, en disant qu'il y a les versets 16b à 20, où c'est plutôt le passé, les patriarches, l'histoire, et les bienfaits de Dieu. Pareil pour les rois, deuxième période, versets 21 à 22, avec David, dont on reparlera dans un moment. Et puis la troisième fraction, c'était les versets 23 à 25, en résumé les prophètes, mais surtout autour de Jean-Baptiste, ce que Jean-Baptiste représente dans le prophétisme biblique, si vous voulez. Voilà, on pourra d'ailleurs se poser quelques questions tout à l'heure là-dessus. Donc il se lève, il fait signe de la main, aussi parce que, vous vous en doutez bien, il n'y a pas de sonorisation à l'époque, donc si tout le monde papote, on ne risque pas de l'entendre. Et il lance, comme on l'avait vu déjà la fois passée, cette petite phrase israélite, « Et vous qui craignez Dieu », sous-entendu, soit des craignants Dieu non prosélytes, soit des craignants Dieu prosélytes, c'est-à-dire qui sont vraiment allés jusqu'à la circoncision. Quoi qu'il en soit, des gens qui croient au Dieu d'Israël. Donc il s'adresse aux deux, c'est quand même assez intéressant, ce qu'il est supposé aussi que les deux, autant juifs que non-juifs, connaissent une grande partie de l'histoire biblique, sinon ils tiendraient d'autres propos. Comme vous l'avez peut-être vu, je suppose, à la lecture, on imagine, je ne sais pas, c'est assez dingue de voir qu'une phrase, un verset, résume des centaines d'années d'histoire. Donc il a vraiment réussi à prononcer une exhortation qui synthétise très fort les choses dans les trois arguments qu'on vient de souligner. Alors commençons par le début, hein, qui au fond c'est le verset 17, hein, l'histoire, je vais quand même le relire, « Le Dieu de notre peuple d'Israël a choisi nos pères ». On va déjà faire cette partie-là. Et je pense, si je me souviens bien, c'était Bernard la fois passée qui nous avait dit que ça résumait l'histoire de l'élection. Au fond, quand on dit que c'est les pères qui ont été choisis, on est en train de parler de l'élection à travers d'un homme qui était Abraham, hein, le père des patriarches, quoi, en fait. Hein. L'élection du peuple d'Israël, en particulier, donc, qui synthétise ici l'histoire de tous les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 fils de Jacob, et c'est important d'ailleurs pour la suite de notre texte après, il choisit de synthétiser, parce qu'il ne s'étend pas là-dessus, mais juste pour bien dire que Israël n'est pas n'importe quel peuple. Israël est le peuple, alors non pas à cause de ses mérites, hein, on le sait, mais qui a été parmi toutes les nations choisi parce que peut-être le plus insignifiant, à l'époque en tout cas, le plus rebelle, c'est clair, il n'y a pas de raison de choisir Israël, sinon que Dieu aime Israël comme il aurait aimé n'importe quel peuple, les Belges, les Gaulois, enfin, peu importe. La gratuité, finalement, ça représente bien comment Dieu est avec l'homme. Donc, élection des 12, et puis très vite, en l'espace d'un verset, bah, il passe à autre chose. Et c'est quoi ce qui suit ? Eh oui. Donc, on saute très vite l'histoire des patriarches, qui a pourtant duré un certain temps, et on en arrive au séjour au pays d'Égypte. Alors,
qui l'a fait sortir ?
Alors, oui, ce qui est marrant, c'est qu'il ne nous parle pas vraiment de ce qui s'y est passé. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il évoque l'esclavage, la dureté de Pharaon, etc. Mais non, là, pas du tout. Il présuppose que tout le monde est parfaitement au courant de l'histoire, hein, c'est clair. Mais il insiste juste sur un fait, c'est plutôt la sortie d'Égypte. C'est ça qu'il va mettre en avant, en utilisant d'ailleurs des mots assez fort, hein, la force du bras, etc.
La puissance.
Donc, ça évoque la puissance, effectivement. Une expression qui évoque, mais pas la puissance de l'homme, mais bien celle de Dieu.
« J'ai mis ce peuple en honneur que j'ai dans ma Bible.
Oui. »
C'est incroyable. Hein? Tu viens de rappeler que c'est un peuple insignifiant, pratiquement, mais Dieu l'a mis en honneur.
Ah, il y avait des peuples bien plus importants qu'eux à l'époque, dans enfin, si tu veux, de l'Anatolie jusqu'en Égypte, il y avait quand même des empires qui étaient bien plus puissants, qui auraient pu imposer la religion du Dieu d'Israël. Ben non. Mmh. On a choisi une insignifiante, un homme d'abord, puis une insignifiante tribu, puis une nation, plus ou moins. Voilà.
Je vois à travers ce peuple en honneur le fait que Dieu se met en honneur à travers l'homme. Ce qui est formidable, c'est que Dieu veut se révéler à travers la nature humaine aussi. C'est extraordinaire, malgré tout ce qu'ils ont fait.
Alors, la force du bras, pour revenir un tout petit peu en arrière, ça évoque les nombreux miracles. Hein. Vous vous rappelez l'histoire de ce séjour en Égypte, la manière dont ils sont sortis. Quand même quelque chose d'assez incroyable quelque part. Donc, c'est très soft. Hein. Il ne rappelle pas tous ces faits, mais c'est quand même ce qu'une oreille juive entend. C'est évidemment toute l'histoire qui finalement permet au peuple de sortir d'Égypte malgré l'opposition du Pharaon, malgré le comportement du Pharaon, parce que Pharaon va quand même les laisser sortir, mais au bout du compte, ils se disent, zut, on va quand même les rattraper dardard et on va les remettre comme esclaves. Bon, ça n'a pas marché. D'après l'histoire biblique, en tout cas, ça n'a pas marché. Et donc, la conclusion sur ce truc d'Égypte, c'est quand même l'accent mis sur la sortie grâce à Dieu, hein, un peu comme le salut pour nous, grâce à Dieu. La sortie du pays de l'oppression, d'un pays dans lequel ils n'étaient pas libres et plus libres vraiment. Libération du joug de l'esclavage, par conséquent, c'est ce que le juif entend quand on lui parle de ça, œuvre de Dieu et non œuvre des hommes, parce qu'on aurait pu aussi imaginer une sortie dans la révolte, où les Hébreux s'emparent de toutes les armes qu'ils trouvent et puis trucident les Égyptiens et puis se barrent autant que faire se peut. Mais ça n'a pas été ça. Ok. Et alors, après cette sortie,
il le supporta pendant environ 40 ans.
Pendant environ 40 ans. Exactement. Alors, je vous rappelle, parce que c'est toujours important, les chiffres dans la Bible, 40, ça évoque toujours un temps d'épreuve. Je ne vais pas dire le mot punition parce que ce n'est pas la réalité, je pense. Bien sûr, Dieu n'apprécie pas la manière. Pourquoi ces 40 ans dans le désert ? Vous vous en rappelez ?
C'était pas pour qu'une génération passe ?
Oui, pour essayer que Israël change, à mon avis. On y reviendra dans un moment. Mais parce qu'au fond, pendant tout le trajet, depuis la sortie miraculeuse, la traversée de la mer Rouge, etc., qu'est-ce qui se passe ? À peine ils sont en dehors du territoire égyptien, ils se mettent à râler. Pour tout, pour rien, il n'y a rien à bouffer, il n'y a pas à boire, il n'y a pas ci, il n'y a pas là, il fait chaud, j'en ai marre, je ne veux plus marcher. Bon, bref, alors qu'ils vont vers la terre promise, théoriquement. Hein. Bon, alors, Dieu se dit, ah bon, c'est comme ça, ben, vous allez faire un petit stage, un petit stage dans le désert, ça va vous renforcer. Je dis ça en rigolant, mais en réalité, quand on lit bien l'Écriture, on se rend compte qu'il a fallu ces 40 ans pour qu'on passe d'une tribu désordonnée à une nation. Quand vous regardez, je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça sur des... Parfois dans les Bibles, il y en a des cartes comme ça, mais pendant le désert, comment était organisé le campement ? C'est pas du n'importe quoi. Hein. C'est pas chacun fait ce qu'il veut, se met où il veut. Non, non, non. Si vous regardez, il y a au centre du campement le tabernacle. Donc au fond, c'est clair, c'est Dieu qui règne. Et tout autour, dans un ordre lié aux points cardinaux, nord, sud, est, ouest, sont rangées les 12 tribus. Chacun a un bout de territoire autour du tabernacle. Comme si Dieu, Moïse, préparait Israël à devenir Israël en Canaan. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est pour moi, quand je dis le mot stage, c'est un peu pour sourire, mais il y a de ça. Il y a une préparation à l'identité nationale. Les 12 tribus n'ayant pas... l'un n'a pas une prépondérance sur l'autre, pas même la tribu de Juda. Donc tout le monde doit vivre autour de Dieu dans un respect mutuel. Bon, ça ne va pas toujours fonctionner. Hein. Il va parfois y avoir de sérieuses frictions, y compris même des périodes guerrières entre eux. Hein, guérilla parfois entre certaines tribus d'Israël. Mais enfin, quoi qu'il en soit, c'est pour ça que je n'aime pas le mot punition. Trop souvent, à l'école du dimanche, on entend que « Ah, ils ont fait les imbéciles, alors paf, ils se prennent une fessée, 40 ans dans le désert ». Mais le but des 40 ans, ce n'est pas la punition, c'est la formation, c'est la préparation, c'est l'identité, c'est qu'ils deviennent vraiment le peuple de Dieu, etc., etc. Et donc, comme tu disais tout à l'heure, Anne-Catherine, bah oui, il faudra bien une génération pour que ça s'ancre vraiment dans les mentalités. Et même là, au bout de 40 ans, il y a encore des résistances. Parce qu'on va le voir hein, tout à l'heure, bah, l'entrée en Canaan... Est-ce que ça s'est si bien passé que ça? Ben voilà.
Il y a un verset, je crois qu'on ne le lit qu'une fois dans l'Ancien Testament, qui dit que Dieu n'a pas voulu qu'ils aillent en ligne droite, parce que c'était leur but au début.
Ah ben bien sûr.
En ligne droite pour Canaan, parce qu'ils n'auraient pas eu les forces de lutter contre les peuples.
C'est
et
aussi...
Dieu leur a donné un détour, parce qu'ils n'avaient pas les forces. Là, on voit aussi l'amour de Dieu. Alors,
c'est aussi une préparation.
C'est à cause de la désobéissance, mais... aussi parce que tu viens de le dire, mais il y a ce mélange là, ce mélange de réaction à l'attitude de l'homme, mais ce mélange aussi de l'amour de Dieu qui protège, qui connaît nos forces et qui agit en fonction de nos forces. C'est un mélange qui est difficile à comprendre.
Hein. Oui, tout à fait. Alors, pour donner un petit chiffre, très souvent la Bible elle-même dit qu'ils étaient environ 600 000 hommes à être sortis d'Égypte. Mais je pense que je vous ai déjà expliqué qu'il faut compter alors le double, parce qu'il y avait au moins les femmes, des enfants, et on sait par la Bible qu'il y avait aussi quelques Égyptiens ou esclaves d'Égypte qui sont sortis avec eux, et qui sont restés avec eux. Donc, très souvent, dans le judaïsme, on évalue à plus d'un million le nombre de personnes qui campaient autour du tabernacle. Hein. C'est assez dingue quand on y pense. Donc, il y avait vraiment... Une identité qui s'est forgée. On est un peuple tant qu'on est autour de Dieu. Dès qu'on s'en éloigne, alors ça devient Israël au nord et Juda au sud, hein, en gros. Donc on voit vite que dès que Dieu n'est pas le centre d'Israël, ça devient n'importe quoi comme dans tous les peuples, finalement. Et donc le verset 18, creusant donc l'histoire d'Égypte, de la sortie d'Égypte, nous explique... qu'elle a été une des pédagogies de Dieu. Il faut savoir qu'il y a deux lectures possibles de ce passage 18b. Hein, dans la plupart de nos traductions vont dire que Dieu a pris soin ou Dieu a nourri, ça dépend, je ne sais pas ce que vous avez dans vos livres. Ah, ça c'est la deuxième version. Donc au fond, on a en grec deux lectures possibles. Parce qu'il suffit qu'une lettre change dans le verbe grec pour que ça ait un autre sens. D'accord ? Donc on a « etrophophoresen », c'est « il les a portés ». Alors ce verbe, c'est l'image d'un père qui porte son enfant. « Il les a portés », donc à la manière d'un père nourricier. Israël étant alors à l'état d'enfance, c'est ce que je viens de dire. Ils sont en stage, en formation, pour devenir un peuple, une nation. Et bien entendu, ça a du sens quand on connaît l'histoire biblique. En tout cas, pour une oreille juive, ah oui, c'est vrai quand même, on a eu la manne, les cailles, l'eau, hein, tout ça, c'est quand même Dieu qui a pourvu pendant 40 ans. Il faut quand même le faire. Hein. Plus la portion double du Shabbat, hein, ça aussi, c'est pas normal. C'est quand même incroyable. Bon, donc, Dieu a pris soin d'eux, Dieu a été bienveillant, pendant ces 40 années d'épreuves dans le désert et de formation. La deuxième lecture possible, donc, c'est le même verbe, si vous voulez, mais avec une autre orthographe, et là, ça devient « etropophoresen », et à ce moment-là, c'est « il les a supportés », et dans ce cas, une oreille juive entend quoi ?« Ah, Dieu nous a supportés !» Oui, parce que... On était dans les murmures perpétuels, dans la rébellion ouverte, hein, l'histoire du veau d'or, par exemple, etc., etc. On est au seuil de l'entrée en Canaan, mais on ne va pas y aller parce qu'ils sont quand même trop forts. C'est des géants, c'est imprenable, qu'est-ce que Dieu a fait, etc. Pourquoi il nous a amené jusqu'ici. Bon, donc on voit bien que la deuxième lecture, bien que beaucoup moins courante dans nos Bibles, très souvent le choix des traducteurs de nos Bibles, quelle que soit la version, c'est plutôt le côté nourricier. Mais la deuxième lecture est tout à fait possible en grec si on change juste une lettre, par conséquent, ce qui est le cas d'un certain nombre de manuscrits qui ont opté pour cette lecture-là, qui ferait donc appel à la manière dont Dieu a été bienveillant vis-à-vis d'un peuple rebelle, aux courroies, etc. Hein, il suffit de relire Exode en entier, les Nombres et quelques autres textes de la Bible, dont le psaume 105, pour se rendre compte que ce n'était pas une sinécure pour Dieu de s'occuper de ce peuple. Hein, voilà.
Ça veut dire qu'on a retrouvé des textes où l'orthographe n'était pas la même.
Oui. Okay. Donc en grec, dans les textes grecs, selon les parchemins, enfin les copies, si tu veux, il y a soit le verbe avec deux fois fofo, soit pofo. Donc ça, voilà, suffit d'une lettre hein, en grec pour que ça change le sens du verbe, évidemment.
On pourrait
dire la même chose en hébreu.
Les deux sont bons.
De toute façon, donc, quel que soit, et c'est peut-être pour ça qu'un copiste s'est dit c'est une erreur, je vais la corriger, et clac, ça devient un autre. Mais en même temps, c'est la réalité historique. Dans les deux cas, il n'y a pas d'erreur par rapport à l'histoire, en tout cas. Alors, donc on en est où là ? Donc, tu as choisi notre père. Donc pendant environ 40 ans, il est nourri au désert. Et puis tout d'un coup, au verset 19, on tombe dans un côté plus sombre. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ce verset 19. Donc d'un côté, on vient d'avoir le Dieu bienveillant depuis l'élection des patriarches. Puis tout d'un coup, on a un peu l'impression que le tableau s'assombrit. Je vais quand même lire le verset. Donc, ensuite, après avoir exterminé 7 nations au pays de Canaan, il a distribué leur territoire en héritage. Voilà. Bon.
C'est un verset qui fait encore frémir beaucoup de gens et beaucoup de nations hein, par rapport à Israël.
Oui. Mm-hmm.
Ce que ce monde ne comprend pas.
J'ai pas mis, mais je
ça ne justifie pas tout Israël pour tout, mais on refuse de voir que Dieu a donné Canaan.
Mm-hmm. Et il est clair que si on s'en tient, je ne parle même pas de la Bible, mais aux réelles découvertes archéologiques sur tout le territoire d'Israël, même au-delà parfois du territoire actuel d'Israël, ces fouilles montrent qu'ils étaient là. Voilà. Avec des tessons de trucs en hébreu, des noms de rois, des pièces de monnaie. Comment peut-on contester que ce fut la terre de ce peuple ? Ça, c'est pas contestable. Bon. Mais fermons peut-être la parenthèse, on va pas rentrer dans le débat politique. Donc, voilà. Il y a cet épisode 19a, et puis on nous... Attends, je regarde vite si je dis pas de bêtises. Est-ce que vous avez été voir dans Deutéronome, c'était qui, c'est cette nation ? Non, mais...
Ah non, on sortait bien.
Ouais, oui, parce que peut-être alors on comprend. Parce que souvent, moi j'ai du mal, comme vous sans doute, avec les textes plus sombre comme ça, où il semble que Dieu...
idolâtre et souvent...
Alors, ça c'est clair. Donc souvent, et ces peuples cananéens, en fait, appelons-les pas peuples, appelons-les tribus, parce qu'en fait c'est des petites tribus de rien du tout, c'est sept peuples qui sont sur ce territoire-là, si vous voulez, sont tous idolâtres, mais d'une idolâtrie assez poussée, puisqu'on allait jusqu'à sacrifier des enfants aux dieux. Et donc, dans Deutéronome 7, on trouve la liste de ces peuples.
Ah, la liste.
Oui, dans un seul verset.
C'est carrément dans les premiers versets.
Hein, tout à fait. Alors, Hittite, Ouétien, Guirgazien, Amoréen, Cananéen, Phérésien, Évien et Jébusien sont les sept qu'on retrouve. Je me suis quand même un petit peu penché là-dessus parce que je me dis, bon, finalement, si l'apôtre Paul évoque ces sept nations, au moment où il en parle, même s'il ne prononce pas les noms de ces peuplades, tout juif entend de qui il s'agit.
Oui, c'est ça, oui.
Pour un juif, c'est très clair. Et finalement, quand on creuse un peu, je vais le faire nation après nation, enfin peuple après peuple, pour qu'on se rende compte le lien qu'il peut y avoir entre ces différentes peuplades de Canaan à l'époque. Alors, commençons par les Hittites, puisque Hittites, Hittiens, peu importe la traduction que vous avez. Les Hittites, alors on sait que les Hittites ont été un grand empire qui était basé depuis l'Anatolie jusque carrément au Nil. Vous voyez l'immense territoire que ça représente, la Turquie actuelle, une partie de la Syrie et de la Palestine d'aujourd'hui d'Israël, et jusqu'au fleuve du Nil. Un super empire. Donc ce n'était pas un petit peuple de rien du tout, mais sur le territoire de Canaan, ils étaient présents. Alors, l'histoire fait que ce sont les fils, les descendants de Heth, qui lui-même était le fils de Canaan. Alors, pour l'histoire, c'est qui Canaan ?
Ben, oui, vas-y. Montre. Voir si tu sais.
Ben oui, c'est ça. Il faut essayer de se souvenir de notre texte biblique. Et ce n'est pas toujours évident. Canaan, c'est le fils de Cham, Cam. Donc, l'arrière... Oui, l'arrière petit-fils de Noé. D'accord ? Bon, tout remonte à Noé. Et c'est là que se joue le nœud. Donc, on essaiera de résoudre après. Or, je ne vais pas citer toutes les références bibliques pour les Hittites, mais il y en a un paquet dans la Bible quand même, qui nous montre à la fois leur comportement, les territoires qu'ils occupaient, etc. Mais le territoire, je vous l'ai dit, en gros, l'Anatolie, la Syrie, le territoire de Canaan jusqu'au fleuve du Nil, disons de l'Euphrate au Nil, si vous voulez, en gros, hein, pour faire. Non, c'était énorme. Hein. Ouais. Les Guergasiens, eh bien, ce sont aussi des descendants de Canaan, d'après la Genèse. Hein. Et eux étaient établis probablement à l'ouest du Jourdain, non loin de Jéricho. Bon, c'était plutôt dans cette région-là qu'ils étaient. Il y a aussi, on trouve de nombreuses références bibliques de la Genèse, jusque même dans Néhémie, par exemple, on trouve une trace de leur histoire. Alors, on ne sait pas grand-chose de tous ces peuples. Hein. La Bible ne raconte pas vraiment leur histoire, mais elle cite des occasions, des faits ou des espaces qu'ils occupaient. La troisième tribu, c'est les Amoréens. Eh bien, devinez, ils sont aussi descendants de Canaan, selon la table de Genèse 10. On trouve la table des nations dans Genèse 10, les montre comme étant descendants de Canaan. Là encore, de nombreuses références dans l'Ancien Testament. Et puis on a la tribu suivante, c'est les Cananéens. Alors là, peut-être des descendants plus directs, je ne sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça, mais voilà. De Canaan toujours, évidemment, avec aussi un certain nombre de références bibliques à la clé. Les Phérésiens. Moi, je m'attendais au fur et à mesure que je faisais la liste à trouver un peuple qui peut-être n'avait rien à voir avec Canaan, mais bon, voilà. Des Phérésiens, peuple cananéen dont il est parlé déjà au temps d'Abraham. Et ils occupent alors, du temps d'Abraham jusqu'à l'époque de Jacob, le centre, ce qu'on appelle la Palestine romaine, si vous voulez, donc plutôt les montagnes du centre du territoire de Canaan. Et ils se fixèrent plus tard sur les montagnes d'Éphraïm, un peu en dehors de tout ça. On a là aussi quelques références bibliques, un peu moins pour les Phérésiens que pour les autres peuples. Puis, l'avant-dernier, les Héviens, descendants de Canaan, toujours d'après la Bible, qui habitaient, eux, au nord du territoire, c'est-à-dire plutôt le Liban actuel et jusqu'à l'Hermon, donc jusqu'aux chaînes de montagnes et le mont Hermon, tout en ayant des membres de leur tribu sur le territoire d'Israël. Voilà, donc là aussi quelques références bibliques, toujours moins que pour les autres peuples. Et enfin, les Jébusiens que nous connaissons. Et oui, vous allez tout de suite deviner. Alors, descendant de Canaan, évidemment, sinon ça ne serait pas rigolo.
Oui, hein.
Petit-fils de Noé, une des tribus amorites, idolâtres, elles aussi, qui ont fondé et habité, bien entendu, Jérusalem. Pourquoi on le sait ? Ben, parce que ça nous est raconté par la prise de cette ville par David, justement, le roi qui va, dont il va parler tout juste après dans la lignée. Donc, au fond, les Jébusiens sont restés très longtemps au même endroit, sur ces montagnes, les collines et tout ce qui entoure Jérusalem, et Jérusalem étant leur ville forte, si vous voulez, à l'époque. Imprenable, quasi, puisqu'au sommet d'une montagne, etc. Jusqu'à ce que David en fasse le siège, et puis gagne la bataille, et puis, bien souvent, ces tribus ont été massacrées hein, quand il y avait une conquête, mais on sait que pour toutes les tribus en question, il est toujours resté un reste. Donc Israël n'a jamais totalement évacué, et ça leur a posé problème, parce que l'idolâtrie renaissait bien souvent à cause d'alliances, de mariages même, entre des gens des tribus d'Israël et puis ces Cananéens de l'époque, quoi. Alors, la question que je me suis posée, et je pense qu'il faut vraiment se la poser, c'est pourquoi alors fallait-il les exterminer ? Pourquoi ne pas conquérir le territoire, les foutre dehors, les renvoyer au nord, au sud, à l'est, enfin voilà, se débarrasser d'eux ? Et pourquoi fallait-il cette extermination ? Alors, en plus de ça, je ne sais pas si vous êtes intéressé à ces récits de conquête du territoire de la Terre promise, mais... Moi, j'avais fait un gros travail quand j'étais en fac de Théo à ce sujet. Parce que quand vous lisez la Bible, l'Ancien Testament en particulier, et que vous vous intéressez à la manière dont Israël est entré en Canaan, il y a toujours deux lectures possibles. Il y a des textes qui disent que Dieu leur a dit « Bon, allez-y, hein, zigouillez, exterminez, etc., pillez, et puis ce sera votre territoire ». Et puis il y a des textes qui sont beaucoup plus soft et qui disent « Dieu fait le travail ». C'est Dieu qui extermine. Et ici, c'est l'argument que Paul utilise. Il ne dit pas que c'est Israël qui les a exterminés. Mais il a exterminé au profit de ce peuple qu'il avait choisi, hein, de l'élection. C'est Dieu qui en prend la responsabilité. Et quand bien même on ferait la lecture la plus noire qui est « Israël a été... » mandé pour exterminer, ça reste la volonté de Dieu. Alors pour la petite histoire, si on remet tout ça dans son contexte, tous les peuples faisaient ça. C'est pas inhérent à Israël. À l'époque, tu voulais un bout de territoire de ton voisin, ben tu exterminais tout le monde, comme ça t'es sûr que t'avais pas de... Ça ne... Le problème ne ressurgissait plus, quoi. Après, tu te faisais peut-être exterminer toi pour l'avoir fait, mais ça c'est autre chose. Au fond... Quand on pose la question « Pourquoi l'extermination ?» Alors oui, comme tu l'as dit Marie-France tout à l'heure, ils étaient idolâtres, ils se comportaient mal, ils ne voulaient surtout pas d'Israël d'ailleurs. Hein. Vous savez que quand vous lisez les textes de la conquête, bah, oui, manifestement, personne n'en voulait vraiment, personne n'avait envie de les accueillir, et encore moins sur leur territoire. Donc, il n'y avait pas photo, quoi. Il fallait bien faire quelque chose. Mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi les exterminer alors que ces peuples sont des sémites, comme eux ? Je ne sais pas si ça a fait tilt pour vous, mais si on est les fils de Canaan, les fils de Noé, on fait partie des tribus sémites, par conséquent. Même si on est très différents les unes des autres. Alors, je vais essayer de schématiser très fort. Et pour ça, il faut remonter à Adam. Donc, au fond, vous rappelez Adam et Ève, Abel et Caïn. Caïn tue Abel. Et Abel, dit le texte biblique, c'est d'ailleurs Ève qui le dit, est remplacé par Seth, qui devient le deuxième Abel, si vous voulez, le fils préféré. Et c'est Sem qui engendrera toute cette lignée, Enoch, Lémèque, Noé, etc., qui fait qu'on aboutit à notre histoire à nous, Noé. Et Noé, lui, on sait, bibliquement parlant, qu'il a eu trois fils. Sem, Shem en hébreu, pour être précis, qui veut dire le nom. Hachem, le nom de Dieu, par conséquent. Kam, qui lui veut dire chaud. Bon. C'est peut-être un joli jeu de mots. Et puis Japhet, le dernier, ou Yafet, si je fais en hébreu, qui veut dire il est mis au large, dans le sens de la prospérité. Japhet, c'est celui qui va se développer, qui va d'ailleurs, d'après le texte biblique, hein, je ne l'invente pas, c'est Japhet qui, lui, va émigrer vers le nord, aller vers les îles comme Chypre et toutes les îles de la Méditerranée. Bon, c'est un gars qui prospère valablement. Il élargit les pieux de sa tente, si vous voulez. Mais pourquoi ? Pourquoi tout ça ? Parce que dans la lignée de Sem, il y a Abraham. D'accord ? Et il y a aussi Héber qui a donné le mot hébreu. Donc c'est un des clans sémites, si vous voulez. Et puis il y a Cam. Mais je vais passer à Japhet. Et Japhet, lui, c'est aussi un sémite. Mais il va plutôt aller dans le nord d'Israël, au-delà, jusque du côté Iran, Irak, et toutes les îles, et la Turquie, etc. Mais le troisième qui nous intéresse, c'est justement Cam, celui qui est le père de Canaan. C'est de lui dont on parle finalement dans ces sept tribus. Et si vous vous souvenez bien de l'histoire biblique, qu'est-ce qui s'est passé avec Cam ? Juste après le déluge. Après le déluge, Noé... Alors, j'aime bien la facilité avec le texte biblique dit les choses. Noé planta une vigne. Ouais, c'est innocent. Noé planta une vigne. Et le verset d'après, il s'enivra. Voilà. Hein, première récolte, poum. Il s'enivre et dans sa tente, puisqu'ils sont encore sous tente à l'époque, il est à poil.
Ah oui.
Et Cam entre dans la tente. Or, vous le savez, dans la loi, il est interdit de voir la nudité de son père ou de sa mère. C'est la règle. Mais en même temps, ce qu'on ne trouve pas dans notre texte biblique, c'est qu'est-ce que ça veut dire voir la nudité de quelqu'un ?
Parce qu'il
prêtait
attention.
Non, il est tout seul, complètement beurré, à poil dans sa tente. Mais c'est Cam qui va profiter de son père. Parce que voir la nudité de quelqu'un, c'est nécessairement sexuel.
Oui, c'est ça.
Ça n'a rien
c'est
à voir avec... Ouh, désolé, je ressors. Tu vois ce que je veux dire.
Oui, c'est sexuel.
Donc, c'est un peu comme quand on dit et Adam a connu sa femme. Adam connaît Ève, c'est pas coucou, comment vas-tu ? C'est je vais jusqu'au bout de la relation, qui est d'avoir une relation, y compris sexuelle. Voilà. Bon. Donc, on est devant cette lecture triste. Sinon, d'ailleurs, on ne comprend pas le résultat si on ne lit pas ça comme ça. Si on ne comprend pas qu'il y a eu... Si on ne comprend pas qu'il y a eu transgression de la loi, on ne peut pas... Alors, la transgression, ce n'est pas juste « j'ai vu quelqu'un à poil ». La transgression, c'est plus grave que ça. Et l'erreur de Cam, si vous voulez, c'est qu'il a été assez bête que pour s'en vanter auprès de ses deux frères. Il sort de là, puis il dit à Sem et à Japhet, j'ai profité de mon père, finalement, qui est une attitude quasi, comment on pourrait dire, perverse, d'une certaine manière.
Hein. Café,
perverse, voire homosexuelle, d'une certaine manière aussi. Donc voilà, c'est ça qui pose problème. Et que font les deux frères ? Ils prennent un manteau, une couverture, et puis ils entrent à reculons, puisqu'ils savent qu'il est à poil, et puis ils couvrent leur père et ils ressortent.
Mais c'est aussi ça, le fait qu'ils disent qu'ils vont à reculons, qui te laisse croire que c'est juste voir.
Oui,
problématique,
oui.
Tu vois, jamais posé la question.
C'est très léger, la lecture. Hein.
Ça, c'est plus que léger, oui.
Difficile de voir tout.
En hébreu, ce n'est pas léger. Si tu lis vraiment dans le texte hébraïque, tu comprends. Mais nos traductions, alors sans doute pour des raisons X et Y, hein, peu importe.
Pas d'euphémisme.
Mais voilà, on n'ose pas dire les choses comme elles sont. Donc, sinon, tu ne peux pas comprendre ce qui va se passer après. Et on va le lire, d'ailleurs, si quelqu'un a le texte de Genèse 9. Parce que ça vaut la peine. On comprend alors ce qui se passe ici, dans notre texte à nous. Donc, Genèse chapitre 9. Je pense que je ne me suis pas trompé dans la référence, à partir du verset 24 jusqu'à 27. Et on aura alors une meilleure idée de ce qui se joue.
Genèse chapitre 9.
Oui.
Et puis
24 à 27. Oui, il y a moyen de lire plus, hein, mais... Le premier qui trouve s'y colle.
Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.
Alors tu vois, ce que lui avait fait, c'est déjà plus qu'il... C'est pas juste, ouf, j'ai pas fait attention, il était...
Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étant de possession de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
Mais tu vois comme ça revient, le leitmotiv. Hein. Donc ce qu'il a fait était très grave, tant aux yeux de la loi qu'aux yeux de son père. Mais d'une certaine manière, c'est la faute à Noé. Parce que si Noé n'avait pas bu de cette manière, inconsidérée, il ne se serait pas passé ce qui s'est passé. Et donc Canaan, et on comprend maintenant alors l'histoire de l'extermination, est porteur d'une malédiction pour des générations et des générations. Et Canaan, alors le Canaan, c'est pas le Canaan de l'an... Enfin, comment dire, on ne peut pas assimiler Canaan à Israël, hein, bien au contraire. Donc, parce qu'Israël, lui, c'est plutôt la filiation de Sem. Voilà. Donc, quelque part, ou Shem, si vous voulez, en hébreu. Donc, Canaan va devenir celui qui servira les deux autres lignées. Et en même temps, celui qui, bien souvent, va guerroyer contre les deux lignées. S'ils prennent parfois les armes aussi, les fils de Cam contre les autres. Ils deviennent... voilà. Bon. Donc au fond, on comprend mieux que la transgression fut si grave que même le père de Cam dit ça, c'est pas possible. Et on comprend aussi que c'est plus que simplement voir quelque chose qu'on n'aurait pas dû voir. Quoi.
Oui, c'est vrai que c'est...
Et donc, nos sept tribus ici sont justement les descendants de ce fameux Canaan. Donc, ils sont sous le joug d'une malédiction prononcée par Noé et qui va jouer défavorablement. Or, il se trouve que c'est eux qui, à l'époque, entre guillemets, possède le territoire de Canaan. Alors, bon, toute proportion gardée, encore une fois, mettons ça dans son contexte, possède pas grand-chose. C'est en réalité l'époque de l'entrée d'Israël en Canaan. Ce sont, à part au nord, où c'était plus un petit peu plus militarisé, etc., le territoire de Canaan, c'est des petites forteresses, comme Jéricho, hein, à gauche, Haï, etc. Quelques villes fortes, y compris Jérusalem, tenues par des espèces de petits roitelets. Hein, chaque ville forte a son roi. Donc c'est des tout petits royaumes de quelques kilomètres carrés et qui, évidemment, tiennent parfois des collines qui font que ils détiennent un petit peu plus une région, un petit, ils verrouillent une route, etc. Bon, ok, mais c'est pas insurmontable. Et en plus, ils ne s'entendent pas entre eux. Donc ces sept-là, au lieu de se serrer les coudes et dire « Bon, on va faire la peau à Israël, ils rentreront jamais chez nous », ben non, ils se débrouillent. Alors, de temps en temps, il y a une alliance contre l'un ou l'autre, mais globalement, ils ne se serrent pas les coudes, malgré qu'ils soient de la même lignée de Canaan. Donc c'est tout juste s'ils ne se détestent pas les uns les autres, finalement. Et voilà. Et voilà qu'en plus de ça, alors ça c'est plutôt aux yeux de Dieu, maintenant que je vais dire les choses, en plus de ça, non seulement ils sont soumis à cette malédiction de leur patriarche Noé, mais quelque part, ils sont en train d'adorer des faux dieux, des démons pour certains, parce que certaines de ces tribus avaient des cultes sataniques, si vous voulez, sorcellerie, etc., divination, enfin tout ce qui est interdit dans la loi du peuple d'Israël, et dont Dieu a sans doute double compte à régler avec eux, parce qu'il y a cette idolâtrie et il y a la malédiction. Mais finalement, si on lit toute l'histoire de la conquête du territoire, enfin, la possession de la terre promise, beaucoup de ces tribus, il va rester des petits morceaux, voilà. Donc Israël ne va pas faire son job jusqu'au bout, elle va tolérer, par exemple, les Jébusiens sont restés très présents sur le territoire où ils étaient. Les Jébusiens ont eu l'intelligence de, juste après la prise de Jérusalem, de vite faire la paix, de faire amende honorable auprès de David, et David les a tolérés. Ceci dit, avec toujours l'écueil de la résurgence de l'idolâtrie, et vous le savez, en Israël, toute l'histoire, ne serait-ce que dans les deux royaumes, Israël au nord, Juda au sud, il y a toujours eu des cultes cananéens. De temps en temps, il y a un roi qui a tout évacué, mais il suffisait d'une génération pour que, poum, ça revienne par un autre biais, et finalement, les cultes à Asherah, Astarté, Baal, tout ça, ça a eu lieu pendant toute l'histoire. C'est comme si Dieu, si vous voulez, n'avait jamais été totalement le seul Dieu d'Israël. Là où il l'a été réellement, c'est dans les 40 années du désert, parce qu'ils étaient dépendants de lui. Mais une fois en Canaan, là où coule le lait et le miel, on a pu prendre un petit peu de large avec Dieu, quoi. Au point qu'il y a eu une époque où il y avait deux lieux de culte sur le même territoire, puis au nord pour Israël, un au sud pour Juda, les uns disant c'est chez nous que c'est la vraie religion, les autres disant c'est chez eux. Bon, ça on est au courant, on sait comment ça marche. Voilà. Donc moi je ne sais pas si ça vous aide à comprendre alors un peu ce texte bizarre et ce verset qui surgit comme ça tout d'un coup, ensuite après avoir exterminé cette nation, on se demande bien pourquoi. Pourquoi exterminer cette nation, les pauvres? Mais voilà, une fois qu'on remonte dans l'histoire de l'Ancien Testament, on découvre qu'il y a peut-être des raisons. Même si nous, on a du mal avec ça, même en ayant l'explication, on se dit « Ouf, c'est quand même dur, quoi, quelque part. »
C'est la même chose pour Israël. Hein. Quand le désert, la terre s'est ouverte pour engloutir les adorateurs du veau d'or, je crois. Israël n'a pas été épargné de ça non plus. Hein.
Tout à fait. J'ai l'impression qu'il me manque une page. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je l'ai mis en dessous.
Et on a peut-être oublié, nous, à notre époque, sous la grâce de Jésus-Christ, que adorer une autre personne que Dieu, c'est en tout cas reclouer Jésus sur la croix, mais c'est oublier que c'est grave.
Je crois qu'il y a une page qui n'est pas sortie, mais c'est pas grave. Je me souviens quand même de ce que j'écris. alors, ce qui est aussi intéressant, et d'ailleurs, je le ressouligne ici parce que ça vaut la peine, quand, une fois que l'extermination a eu lieu, il, sous-entendu Dieu, a distribué leur territoire en héritage. Donc on est bien dans la version d'un peuple non conquérant. À part l'histoire de Jéricho, si vous voulez, ce qui n'est quand même pas une bataille extraordinaire, tourner cette fois autour de la ville en hurlant et en faisant de la trompette, c'est pas une bataille, ça, mais c'est quand même marrant. Moi, je trouve ça bien rigolo. C'est une manière pour Dieu de souligner qu'Israël, vous voyez, cette histoire de Jéricho, c'est quand même, tu n'as pas besoin de la force pour entrer en Canaan. C'est une manière de prouver à Israël leur dépendance à Dieu, finalement. Mais bon, je relis. Il leur a distribué le territoire en héritage. Pourquoi héritage? Parce qu'il y a eu une promesse. Une promesse à qui? Au tout départ, Abraham, bien entendu. Donc finalement, le fait que Dieu distribue lui-même le territoire à Israël, C'est une manière d'assumer complètement la promesse qu'il avait faite à Abraham, et en même temps, ça dédouane un peu Israël d'être le peuple conquérant et massacreur, bien qu'aujourd'hui on peut se demander à quoi il joue, mais bon, avec ce qui se passe au Liban et à Gaza, même si on peut comprendre que la guerre, il n'y a pas d'autre solution pour eux aujourd'hui, mais la manière de le faire est parfois un peu troublante. Donc, il leur distribue le territoire comme une sorte de cadeau et de réalisation. Je trouve que c'est intéressant parce que, de nouveau, ça donne une identité différente à Israël. Israël qui va entrer en possession de Canaan, c'est un Israël exploitant, comptant sur la bienveillance de Dieu, qui leur offre le territoire de Canaan, finalement. De Canaan, leur père, le frère de leur père, si vous voulez. Donc, pour un juif de l'époque, un hébreu qui entre en terre promise, il fait le lien avec la malédiction liée à Canaan. Il sait pourquoi il reçoit le territoire. Nous, on ne comprend pas ça, la lecture. Bon, là, on lit les faits, puis ça ne touche pas plus que ça. On ne comprend pas ce qui se joue réellement, quoi. Mais au fond, pour que tout ça se réalise, c'est ce que le texte ajoute après, il y a eu l'histoire des 450 ans, puisque le texte se termine au verset 20 avec « tout cela a duré 450 ans environ ». Alors, ça dépend comment on compte, évidemment. Mais globalement, oui, il y a eu les 400 ans de séjour en Égypte. C'est déjà pas mal. Et puis, il y a eu les 40 ans...
Pas en Égypte. Ah oui, 400 ans en Égypte et 40 ans dans le désert. Oui,
400 ans passés en Égypte, à la fois libre et prospère, et puis tout d'un coup esclave. Mmh. Et puis les 40 ans de marche dans le désert, là, l'espèce de formation, la mise à l'épreuve. Et puis, on se rend compte alors que les Juifs ont donc arrondi à 10 ans, ça nous donne une bonne indication, la prise de possession de la terre promise. Donc à partir du moment où ils ont fini leur pérégrination dans le désert, il va se passer encore 10 ans avant que toutes les tribus aient un territoire dans ce grand territoire de Canaan. Depuis la mer, si vous voulez, jusqu'au Jourdain, en gros. Et même en dehors du Jourdain, parce qu'il y a des tribus, comme Manassé, etc., qui sont plutôt à l'ouest du Jourdain, dans ce qui est aujourd'hui la Jordanie, ou la Transjordanie, peu importe. Hein.
Tu le comprends comme ça, Yves?
Oui, c'est pas clair.
450 moins 440, ça fait 10 ans. Dans ma Bible, c'est vraiment écrit d'une façon très, très légère aussi. Après cela, donc après tout ce qu'il a raconté, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel.
Mmh. Voilà, donc ça c'est une variante, j'allais y venir. Donc il y a deux lectures possibles. Soit on est en train de parler du décompte entre le moment où Israël s'est retrouvé en Égypte et la réalisation de la promesse. Et la deuxième variante, et là ça dépend évidemment, tu vois le problème du grec, ma copine Brigitte dira la même chose que moi, il n'y a pas de ponctuation. Non, où la mettons ? Quand est-ce que la phrase est finie ? Quand est-ce qu'elle commence ? Et donc, selon la manière dont tu découpes le grec, tu obtiens une deuxième lecture possible, qui, elle, irait donc, alors en gros, répète peut-être ce que tu as dit, parce que...
Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. Donc c'est que la période des juges et de Samuel aurait duré 450 ans.
Voilà. Donc au fond, la deuxième lecture, si on s'en tient à cette lecture du grec, ce serait depuis la conquête de Canaan jusqu'à la fin de la judicature, sous-entendu jusqu'à Samuel compris, inclus, il s'est passé 450 ans. Ah, oui. Mais pourtant, quand on fait le décompte à la lecture biblique, etc., il n'y a pas 450 ans. Ouais. Donc, pour aller jusqu'au bout de l'idée, les deux lectures ont été soutenues par les Juifs. Donc, même aujourd'hui, on peut te dire, même si le décompte ne fonctionne pas historiquement parlant, il y a encore beaucoup de rabbins qui vont faire cette lecture-là.
Ils disent qu'après la conquête, 450 ans,
c'est la période des juges. Et pourquoi pas ? Donc au fond, Si tu te souviens de ce que j'ai dit tout à l'heure, si on compte comme ça, depuis la conquête jusqu'à la fin des juges, eh bien, il a fallu 450 ans pour arriver au vrai Israël, c'est-à-dire la royauté. Exactement. D'accord. La figure messianique de David, dont Paul va parler à l'instant. Donc, quelque part, c'est, tu vois, les deux lectures se tiennent. Et peut-être même les deux lectures se superposent aussi bien. Alors, en tout cas, on ne sait pas quel est l'argumentaire de Paul réellement ici. Est-ce qu'il fait la lecture qu'il va d'ailleurs faire, je pense, dans les Galates, si j'ai bon souvenir.
C'est ça,
tu l'as trouvé, ça. Voilà. Dans Galates, il dit un peu la même chose.
Mais
que
là. On va encore autre chose, quoi.
Tu veux le lire ?
Oui. Voici donc ma pensée. Un testament en règle a d'abord été établi par Dieu. La loi, venue 430 ans plus tard, ne l'abroge pas, ce qui rendrait vaine la promesse. Donc c'est encore plus court, là.
Donc, au fond, il faut bien comprendre que pour les Juifs de l'époque, les chiffres sont manipulables. On s'en fout de savoir si historiquement il s'est réellement passé 450 ans. Alors ça clope très bien dans certains cas, ça clope moins bien dans d'autres, mais voilà, c'est leur lecture de leur propre écriture. Donc on ne va pas aller leur dire, dites les amis, vous vous êtes trompés, c'est comme ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, ben, on peut enseigner ce genre de choses-là.
Il a dû dire une vérité parce qu'il n'est pas contesté. Et voilà, qui représente ce qu'il a voulu dire. Comme tu dis, seul le vin.
Et donc, avec les juges dont vous connaissez un peu l'histoire, on ne va pas la raconter, mais bon, c'était quand même chaotique, hein, la période des juges. C'était la chienlit totale sur tout le territoire d'Israël. C'était même à l'époque des grosses bagarres entre eux, hein, militairement parlant. Hein, on pouvait se trucider, etc. Donc ça n'a pas été simple. Plus les incursions des Philistins qui venaient sans cesse les tarabiscoter. Et pourtant, il y avait eu toute cette formation, il y avait eu toute cette possession du territoire. Et voilà que maintenant, ils réclament un roi. On sait d'ailleurs par l'histoire que Dieu n'est pas très content qu'il réclame un roi, parce qu'il se doute bien qu'il va être un peu plus mis de côté quelque part. S'il y a un vrai roi, bien visible et bien charnel, on va aller vers des histoires. Et d'ailleurs, le premier qui est cité là, Saül, fils de Kis, issu de la tribu de Benjamin, entre parenthèses, Saül, c'est le nom de Paul, hein. En hébreu, c'est le même. Et Paul est de la tribu de Benjamin. Donc peut-être il s'identifie un petit peu à toute cette histoire. Donc le premier qui est choisi, c'est quand même un gars. Alors de nouveau, il règne 40 ans, mais tout le monde sait qu'historiquement, ce n'est pas tout à fait ça non plus. C'est un peu moins que 40 ans. Mais peu importe, ça veut dire aussi que Israël, et Paul en l'occurrence ici, considère la royauté de Saül comme une épreuve. Comme quelque chose qui n'a pas été positif pour Israël. Contrairement à leurs aspirations, nous voulons un roi, et désormais on sera un peuple, une nation, un peuple comme les autres peuples, etc. Le résultat, c'est des années et des années de guerre civile. Notamment entre les partisans de David, le roi choisi, hein, du cœur de Dieu, si vous voulez, et puis Saül qui a été élu parce qu'il en fallait un. C'est quand même très, très différent. Donc ça n'a pas été une période joviale. Et comme je vous l'avais dit la fois passée, étrangement, on va ne citer aucun autre roi dans cette histoire de la royauté. Oui. Juste deux, le mauvais et le bon, si je puis dire. Le bon parce que figure messianique, sinon il n'a pas toujours été bon non plus, notre cher David, bien que grand roi d'Israël.
Et c'est comique de voir, et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül.
Ouais, ouais.
Dieu leur donna. Ils ont demandé, voilà. Dieu donne.
Voilà.
Mais vous
faites votre expérience. Ben voilà.
Dieu est difficile à comprendre. Hein.
Je pense que Dieu, si tu veux, est déçu de l'attitude d'Israël. De toute cette période des juges. Mais déçu aussi qu'ils en arrivent à se penser comme les autres peuples. À se forger une identité nationale comme les autres peuples. En imitant ce qui est autour d'eux, au lieu de vraiment vivre de la royauté divine, justement, et voilà, d'avoir un impact sur les nations entourantes, peu importe. Et donc, il leur donne comme s'ils cédaient à leurs demandes, et en même temps, sans méchanceté, je pense que Dieu sait très bien que ça va capoter. Donc je vous le donne, je vous le concède, mais quelque part vous faites une erreur. Et l'erreur, elle est très vite affirmée, parce que à défaut de la guérilla entre lui et David, on sait que Saül n'a pas toujours été un très bon roi, et qu'en plus de ça, il était franchement malade, le gars. Il avait un problème psycho, hein, quand même. Voilà, il avait ses petites crises. David en a fait les frais bien souvent aussi. Mm-hmm. Il était aussi avec la langue fourchue, comme diraient les Indiens. Il promet un truc, mais il ne le fait pas, etc. Bon, voilà. Je pense qu'Israël a dû quand même être un petit peu refroidi. Et quand surgit finalement David, choisi cette fois-ci par Dieu. Donc le premier choix, tu as raison, c'est le peuple qui le fait. Le deuxième, c'est Dieu qui dit, bon, là, vous avez vu ce que ça a donné pendant 40 ans, vous en avez bavé, maintenant c'est moi qui choisis. Et j'en choisis un, c'est... bon, voilà. Mais en même temps, nous, on sait que dans le discours de Paul, ce qu'il veut souligner, c'est le caractère messianique de David. C'est celui qui annonce le plus l'arrivée du Messie, qui doit être issu de sa propre lignée, etc., etc. Celui qui va le représenter à certains moments. Il va avoir une figure messianique dans l'histoire, à d'autres moments pas du tout, mais bon, voilà. En tout cas, voilà, c'est un des très grands rois d'Israël, manifestement, quoi. Et j'aime bien ces phrases qui suivent après dans le texte, hein. « J'ai trouvé David, fils de Jessé, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » Et quand on se pose la question, mais quelle volonté il a accomplie ? Oui, il a affermi Israël, il a même dépassé les limites territoriales qui étaient celles du début d'Israël, il a écrit énormément de cantiques, entre autres, il a prononcé des prières admirables, il a annoncé le Messie, il a annoncé que c'est de lui qu'il viendrait, etc., etc. Oui, et je me dis finalement, accomplir toutes les volontés de Dieu, c'est conduire Israël vers le Messie. Mais en même temps, toutes les volontés, c'est que tous les peuples vont être au profit de ce Messie d'Israël. Donc c'est plus que n'avait imaginé peut-être même David, que finalement ça aurait un retentissement universel quelque part. Et donc, Paul d'ajouter au verset 23, ben voilà, c'est cette descendance-là que Dieu, selon sa promesse, a fait sortir Jésus, le sauveur d'Israël. Maintenant, si vous vous mettez une seconde à la place de ceux qui écoutent, je dirais que jusqu'à toutes mes volontés, c'est OK. Mais à partir du moment où il commence à dire, voilà, moi je vous dis que la descendance est venue, il s'agit de Jésus, le sauveur d'Israël. Et d'ailleurs, quand on lit ça, on se dit, tiens, il devait quand même être un peu au courant alors, parce qu'il ne précise rien, Paul, ici, il ne dit pas Jésus de Nazareth, né de patati patata, mais il affirme tout simplement, c'est la lignée de David, c'est le fameux Jésus, hein, sous-entendu mis à mort à Jérusalem, etc. C'est celui dont Jean est là de nouveau. Si vous regardez bien, il n'explique pas qui est Jean le Baptiste, pourtant, on est quand même assez loin de Jérusalem, là. Et voilà. Mais donc, ça montre à combien toute oreille juive connaît son histoire. Tout le monde sait d'où vient Israël. Tout le monde sait. Mais en même temps, comme on l'avait vu dans d'autres épisodes des Actes, les nouvelles vont très vite entre juifs. Toute la diaspora est au courant du moindre fait qui se passe à Jérusalem. Quelque chose de grave, quelque chose de bien... Tout ça se sait très rapidement. Et je dis même, c'est extraordinaire la vitesse à laquelle, on l'a vu avec l'histoire entre Antioche et Jérusalem, la vitesse à laquelle les nouvelles allaient à l'époque.
Grâce aux voies romaines.
Oui, entre autres. Donc voilà, apparemment, tout le monde sait dans l'auditoire qui est ce fameux Jésus et qui est ce fameux Jean dont on ne dit même pas l'appartenance. On ne dit pas Jean le Baptiste, on ne dit pas... Mais on sait qu'il a proclamé un baptême de conversion. Ah oui, ah c'est celui-là. Parce que des Johannan, il y en a des milliers en Israël, et même là où ils sont, il y en a sans doute plein dans la synagogue. Donc va-t-on savoir duquel Jean on parle ? Bah oui, ben c'est celui qui prêchait le baptême de conversion au peuple d'Israël. Il leur disait, allez, repentez-vous, parce que jusque-là, vous n'êtes pas vraiment l'Israël que Dieu voulait. Vous devez revenir à Dieu. C'était ça la prédication de Jean-Baptiste. Et on sait que ça avait eu un franc succès. Beaucoup de gens, vous imaginez, quand vous relisez les évangiles, beaucoup de gens sortaient des villes pour aller au désert. Là où Jean se trouvait, dans le désert de Judée, le haut du désert de Judée, proche du Jourdain, où il bouffait des sauterelles et mangeait du miel, avec sa peau de chameau, là, et puis les gens allaient se faire plonger dans le petit Jourdain pour reconnaître qu'ils étaient pécheurs et qu'ils voulaient revenir à Dieu. Et c'est celui-là, donc, qui représente tout le prophétisme d'Israël, parce que peut-être considéré comme le dernier prophète, si vous voulez, celui qui annonce vraiment que le Messie est là. On n'a plus à l'attendre, il est là. Hein ? On connaît, nous, l'histoire des évangiles. Évidemment, eux ne le connaissent pas comme ça, tout à fait. Et j'aime bien la manière dont Paul va présenter le Messie, d'une manière très soft, finalement, en disant, voilà ce que Jean-Baptiste disait quand on l'interrogeait, alors qu'il était à la fin de sa vie, enfin, proche d'être zigouillé. Il disait aux gens, qui supposez-vous que je suis ? Parce que les gens venaient parce qu'ils croyaient que c'était Élie, ou ils croyaient que c'était peut-être le Messie, etc. Parce que c'était un type extraordinaire, un type qui osait dire les choses au roi et aux Romains, sur le péché, etc. Et Dieu sait si on sait que la royauté de l'époque à Jérusalem était loin d'être totalement juive. Hein. Qui supposez-vous que je suis ? Sous-entendu, il répond, ce n'est pas moi. Moi, j'aime bien cette tournure de phrase. Hein ? Si vous supposez que je suis le Messie, ce n'est pas moi. Mais voici que vient.
Mais c'est sous-entendu.
Hein. Exactement. C'est amené d'une manière, moi, je trouve extraordinaire. Paul essaye d'être le plus soft possible, mais en même temps le plus direct possible. Il leur dit, non, ce n'était pas Jean le Baptiste. Jean le Baptiste était là pour annoncer celui qui était là à la porte, celui qui était en train d'entrer. Quelqu'un vient après moi dont je ne suis pas digne de délier les sandales. Et je trouve que là, il fait quelque chose d'admirable. Et donc, c'est la fin de la première partie de son discours. On en est arrivé déjà à annoncer qui était le Messie, un certain Jésus, qui l'a annoncé de manière claire comme accomplissement des prophètes, de tous les prophètes, puisque vous rappelez-vous, pendant 400 ans, à part Jean le Baptiste, plus personne n'a osé parler de quoi que ce soit de la part de Dieu. Tandis que Jean le Baptiste disait, il annonce les choses. Aplanissez vos sentiers, etc. Arrêtez de tourner en rond. En pleine... Alors, il faut bien se rendre compte qu'on est en pleine période d'imposture, finalement, en Israël. Alors déjà, ils sont dominés par les Romains, mais en plus, les quelques Juifs qui dirigent, que ce soit le clan religieux ou la royauté, c'est tous des imposteurs et des pourris. Alors t'as un type comme ça qui vient et qui dit, eh bon, avec une allure prophétique, il dit pas « je suis prophète », mais il est complètement prophète, il se comporte comme un prophète. Vous savez, cette histoire de déguisement, la peau de chameau et tout ça, ça rappelle les grands prophètes d'Israël, Élie, Élisée et compagnie, hein, qui n'avaient pas peur d'être dans le geste une annonce en soi. En plus, s'amuser à prophétiser dans le désert, c'est quand même génial, quoi. Sauf comme posture, là, ça oblige les gens à sortir d'eux-mêmes. Hein. Il faut vraiment vouloir y aller. On est touché par la prédication d'un gars qui parle à des centaines de kilomètres de chez moi. Mais comme il a une stature de prophète, tout le monde veut aller l'écouter. Enfin, la plupart, le petit peuple, hein, en tout cas. Ceci dit, les pharisiens iront aussi l'écouter. Hein. Voilà, donc ça, je trouve ça vachement bien ficelé, cette première partie de discours, où il arrive... Vous voyez ce que ça représente, quelques versets. On est parti du verset 16 et au verset 25, la boucle est bouclée. On est parti de tout l'historique d'Israël, très synthétisé, pour arriver finalement à quelque chose qui s'est passé quelques années auparavant. Et les Juifs comprennent. parce que tout ça résonne très fort finalement dans l'Europe. Je ne sais pas qui leur est, désolé. Peut-être que ça, on est dans le temps.
En tout cas, ça me donne l'impression que, en partie, c'est peut-être pas son but, mais en partie, Paul s'attire la reconnaissance de ce qu'il va dire et la reconnaissance qu'il fait partie du peuple, la reconnaissance qu'il est juif, la reconnaissance qu'il respecte l'histoire des juifs. Et donc, il s'attire la sympathie. Mm-hmm.
La seule chose qui aurait pu les bloquer, c'était cette finale.
À partir de Jésus.
Oui. Ouais. Mais apparemment, on le verra après à la fin du discours, ça se passe bien.
Ouais.
Quelque part, on en redemande quelque part aussi. Mais ça, c'est pour plus tard. Voilà, je ne sais pas si vous avez l'une ou l'autre application par rapport à cette section aussi, qui vous intéresserait de souligner. Moi, je reviens toujours avec cette idée que quand même, les Juifs ont ceci d'extraordinaire, c'est qu'ils connaissent leur histoire. Et donc, dès qu'on leur adresse la parole, les choses sont très claires pour eux. De quoi on parle, qu'est-ce qui se passe. Un peu comme aujourd'hui, en Israël, si vous saviez le nombre de rabbins qui sont en train d'enseigner le peuple d'Israël sur le retour du Messie, à cause de ce qui se passe maintenant. Pas juste à cause de Gaza ou du Liban, mais à cause de tout ce qui se passe mondialement parlant, et de la haine des Juifs dans le monde entier. C'est assez impressionnant. Donc pour eux, c'est clair, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre à la fois de la haine, mais du divin. Ils n'ont pas peur. Pour eux, c'est clair, le Messie vient, il n'y a pas lieu d'avoir peur.
Mais pour eux, ça reste sa première venue.
Oui, sauf peut-être pour quelques Juifs messianiques, qui eux savent qu'il est déjà venu, mais... Les autres aussi le savent un peu, mais le contestent.